Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux musiciens de nous avoir conduits dans ces moments de louange à notre Seigneur. Je m'appelle Julien et je suis l'un des responsables de cette église. Et ce matin, nous allons reprendre notre étude de l'Évangile selon Matthieu. Et nous arrivons ce matin au chapitre 14, les versets 13 à 23, où nous voyons ce miracle de Jésus bien connu, qui est la multiplication des pains pour les 5000 hommes. C'est un miracle qui, pour beaucoup de spécialistes de la Bible, est en fait l'un des plus significatifs de Jésus. C'est en fait le seul miracle qui est raconté par les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mis à part évidemment la résurrection de Jésus. C'est aussi un miracle qui marque un tournant important dans son ministère. À partir de ce moment, son ministère va devenir, on pourrait dire, de plus en plus privé. Il ne va plus faire beaucoup de grands enseignements pour les foules. Il va plutôt petit à petit se concentrer sur l'enseignement et la préparation de ses disciples en privé. Il va les préparer pour la mission qu'il leur confiera après sa résurrection, de faire de toutes les nations des disciples, ce que l'on appelle en français le mandat missionnaire ou l'ordre missionnaire. Jusqu'ici, nous avons donc vu un Jésus qui exerce un ministère public à la vue de tous. Nous l'avons vu faire beaucoup de miracles et enseigner des foules, comme lors du sermon sur la montagne. Ou alors, comme on l'a vu plus récemment la semaine dernière avec le pasteur Vincent, les paraboles agricoles par lesquelles il nous raconte les vérités du royaume de Dieu. Et de ce fait, à ce stade du récit de Matthieu, Jésus est devenu très populaire. Si bien que, comme on va le voir ce matin, alors qu'il a appris la nouvelle que son cousin Jean-Baptiste a été exécuté, et qu'il se retire pour aller dans un endroit désert, probablement pour prier, la foule le devance. Et lorsqu'il débarque, là où il voulait être tranquille, il va se retrouver en face d'une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc peut-être quelque chose comme 20 à 25 000 personnes. Et nous allons voir que Jésus va pourvoir à leurs besoins. Alors lisons notre texte, Matthieu chapitre 14, je prends les versets 13 à 23 et voyons ce que l'on peut en apprendre. Je vais lire dans la version second 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent, et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. » Ce matin, nous allons voir 3 points. Ah oui, il n'y a pas les slides. Nous allons voir 3 points. Nous allons voir que le Seigneur va pourvoir à travers ses disciples. Nous verrons dans un second point que le Seigneur pourvoit à celui qui lui fait confiance, son serviteur. Et enfin, nous verrons dans un 3e point que le Seigneur pourvoit au vrai pain du ciel. Lorsque Jésus débarque donc dans ce lieu pour être seul, où il voulait probablement faire son deuil et prier le Père dans l'intimité, être réconforté par son Père, il se retrouve donc en face de cette foule immense. Et je pense que pour nous, eh bien, c'est relativement facile de s'imaginer être à la place de Jésus et de s'imaginer ce que nous aurions ressenti et ce que nous aurions fait à sa place. Peut-être nous aurions été frustrés. Sans doute nous aurions été en colère. Sans doute nous aurions eu aussi ce sentiment d'être étouffés et de vouloir nous en aller le plus vite possible. Nous aurions peut-être eu des doutes et nous aurions voulu renvoyer cette foule le plus vite possible, faisant ainsi passer notre besoin personnel avant toute autre chose. Mais le texte nous dit ici que Jésus fut rempli de compassion, il fut ému de compassion pour cette foule. Et cette expression « ému de compassion » traduit en fait une sensation incontrôlable, quelque chose que l'on ressent dans les tripes, une sensation qui le pousse à pourvoir pour cette foule. C'est un peu cette sensation que l'on pourrait avoir si l'on voyait un petit chat dans la rue tout seul, qui pourrait se faire écraser à tout moment, et on va aller vers lui, on va le sauver, de façon presque instinctive. Et ceci nous apprend quelque chose d'important sur Jésus. Ce qui le motive à venir en aide à cette foule, ce n'est pas un calcul intellectuel neutre. Ce n'est pas un calcul dépourvu de toute émotion. Mais c'est réellement un sentiment d'amour profond pour nous, pour cette foule. Un sentiment d'amour et de compassion. Jésus aime cette foule. Jésus nous aime, nous. Jésus est l'homme qui n'a jamais fait passer son besoin personnel avant celui des autres. Jésus, à ce moment-là du récit, a besoin d'être seul dans la prière. Il a besoin d'être ressourcé. Quelque part, il a besoin d'être nourri de façon spirituelle par la communion avec son Père, par la présence de son Père. Après tout, c'est pour ça qu'il avait pris cette barque et qu'il était allé dans cet endroit désert. Et voilà, cette foule est là. Et Jésus sait qu'elle aussi, elle a besoin d'être nourrie. Qu'elle a besoin d'un berger qui va pouvoir les guider et les nourrir par son enseignement et les soigner par des guérisons. Alors, ne regardant pas à son propre intérêt et ému de compassion, Jésus fait une pause dans ce qu'il avait entrepris, se retrouver seul pour prier son Père. Et il va nourrir cette foule. Il va les nourrir dans un premier temps par son enseignement et les guérir à travers des guérisons. Mais il va aussi les nourrir en leur donnant un pain physique une fois que le soir arrive. On se rappelle, ils sont dans un endroit désert où il n'y a rien à manger et l'heure est avancée. Alors les disciples, logiquement, demandent à Jésus de renvoyer cette foule afin qu'ils aillent s'acheter de quoi manger. À cette époque, la Galilée était très densément peuplée. Il y avait beaucoup de villages. Cet endroit, effectivement, était désert. Mais probablement pas très loin, à quelques kilomètres, il devait y avoir plusieurs villages et cette foule aurait pu aller dans ces villages pour trouver de quoi manger. Mais Jésus leur répond quelque chose de très étonnant. Jésus leur répond, ils n'ont pas besoin d'y aller, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Alors cette fois, on peut s'imaginer être à la place non pas de Jésus, mais des disciples. Qu'est-ce que tu veux dire, donnez-leur vous-même à manger? On a 5 pains et 2 poissons. Ça va peut-être faire un peu juste pour 25 000 personnes, non? Alors, est-ce que Jésus pense réellement qu'il pourra nourrir toute cette foule? Non, bien sûr. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il leur dit cela? Pourquoi est-ce qu'il leur dit... Nourrissez-les vous-même. Eh bien, notre Seigneur veut les mettre en face du fait que sans lui, ça ne va pas être possible. Il veut leur faire réaliser leur incapacité devant la tâche. Il veut qu'ils réalisent que sans lui, la tâche est inatteignable. Jésus demande aux disciples ce qu'il sait qu'ils ne pourront pas faire, afin que lorsqu'ils le feront, ils sachent que ce n'est pas eux, mais que c'est Jésus-Christ avec eux. Et nous aussi, nous avons besoin de réaliser que dans la mission ou dans tous nos ministères ici à l'Église, tout doit dépendre de lui. Ce n'est pas nous, mais Christ en nous, afin que toute la gloire lui revienne. On se rappelle que cet évangile a été écrit avec en tête un public principalement juif. Et à travers cette action de les mettre face à l'impossibilité de la tâche, Jésus leur rappelle aussi que dans toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est toujours Dieu qui a pourvu et que l'homme, au final, n'a jamais été qu'un instrument entre ses mains afin de pourvoir. On se souvient du sacrifice d'Isaac quand Dieu a pourvu à un bélier. On se souvient, comme Kerwan nous l'a partagé ce matin, de la manne dans le désert. Et puis juste après, au chapitre 17 de l'Exode, l'eau qui sort du rocher. On se souvient que lorsque Gédéon allait affronter les Madianites, il avait choisi 32 000 hommes. Et l'Éternel avait dit non, c'est trop. Et il en avait sélectionné seulement 300, afin qu'ils ne s'enorgueillissent pas et que toute la gloire revienne à l'Éternel. On se souvient qu'avec le peu d'huile d'une veuve endettée, Élisée a pu remplir tous les vases. On se souvient que pour Élie aussi, Dieu a pourvu et que la farine et l'huile ne se sont pas épuisées. On se souvient de comment l'Éternel a pourvu lorsque Élie se cachait près du torrent de Kérit et où les corbeaux venaient lui apporter de quoi manger matin et soir. L'Éternel a toujours pourvu. Il a pourvu au moment où le peuple d'Israël était dans le désert. Il a pourvu au temps des rois. Il a pourvu au temps de Jésus, il pourvoit encore aujourd'hui et il pourvoira encore dans l'avenir. Mais l'exemple qui me marque peut-être le plus dans l'Ancien Testament, c'est lorsque l'Éternel va utiliser son serviteur Moïse pour faire sortir son peuple. Moïse, à ce moment-là, a 80 ans. Il est socialement faible. Il est le berger d'un troupeau qui ne lui appartient même pas. Le berger du troupeau de son beau-père, Jéthro. Moïse a le souvenir à ce moment-là que lorsqu'il avait 40 ans, qu'il était dans la force de l'âge et qu'il était prince d'Égypte, qu'il était socialement fort, il avait essayé, de par ses propres forces, de sauver un Israélite et qu'il avait lamentablement échoué. Et à ce moment-là, lorsqu'il est vieux et sans force, qu'il a 80 ans, le Seigneur lui dit « Vas-y ». C'est maintenant le moment que j'ai choisi. Va libérer mon peuple, quelques millions d'Israélites. On se souvient que dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, Moïse résiste, qu'il ne veut pas y aller, qu'il a peur. Il a peur d'échouer. Et on le comprend. Et le Seigneur lui répond, « Si, si, vas-y, tout ira bien, car je serai avec toi. » Et ici, dans notre texte ce matin, eh bien, c'est ce que fait le Seigneur. Il leur enseigne à dépendre de lui. À dépendre de lui à ce moment-là pour nourrir cette foule. Mais aussi, il leur enseigne à dépendre de lui pour la mission bien plus grande qu'il leur confiera après sa résurrection. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Et où il continue dans Matthieu 28 en disant, « Et moi, je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde. Cette mission que le Seigneur a confiée à ses disciples, cette mission qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici à le louer et à élever son nom. Cette mission qui est maintenant la mission de l'Église, notre mission. Alors peut-être vous avez peur de la tâche que le Seigneur met en face de vous. Peut-être cette tâche, c'est de parler de lui avec un collègue au travail. Peut-être cette tâche, c'est de vous engager dans un ministère, ici à l'Église. Peut-être cette tâche, c'est simplement de lire la parole de Dieu en un à un, avec un ami, un frère ou une sœur. Et quelque part, vous avez raison d'avoir peur, car le Seigneur vous demande quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donnez-leur à manger vous-même. Et quelque part, vous avez tort de penser que le Seigneur ne sera pas avec vous. Il l'a promis à travers ses disciples. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, vous avez raison d'avoir peur de ne pas savoir comment faire naître quelqu'un de nouveau, de transformer son cœur et de l'amener à la repentance. Mais vous auriez tort de penser que c'est votre rôle. Et vous auriez tort de penser que le Seigneur ne va pas pourvoir à travers vous. Et vous avez tort de penser que le Seigneur ne vous utilisera pas pour paître son troupeau. Comme le disait le missionnaire britannique Hudson Taylor, le ministère chrétien commence là où les ressources humaines s'arrêtent. Le ministère chrétien commence là où les ressources humaines s'arrêtent. Nous aurions tort, en effet, de penser que ce sont les disciples qui ont nourri cette foule. En apparence, c'était eux, puisque c'était eux qui distribuaient la nourriture. Et de la même façon, nous aurions tort de penser que lorsque nous accompagnons un frère ou une sœur et qu'il donne ou qu'elle donne sa vie au Seigneur, nous avons fait un quelconque miracle. C'est le Seigneur qui agit. Nous, nous sommes simplement les dispensateurs des grâces que le Seigneur nous confie. Pourquoi est-ce qu'il nous confie cela? Je n'en sais rien, mais c'est comme ça qu'il l'a voulu. C'est lui qui produit le miracle, la bénédiction. Et il nous la confie afin qu'on l'apporte à ceux qu'il veut nourrir. Comme ici, dans notre texte, qui dit « Il donna la nourriture aux disciples qui allaient, et ils allèrent la distribuer à la foule. » Le Seigneur Jésus, donc, pourvoit à cette nourriture physique. Dans le second livre des Rois, au chapitre 4, il y avait eu une première multiplication des pains. Une première multiplication des pains qui a en fait préfiguré ce que Jésus fait ici, dans notre texte ce matin, pour les 5000 hommes. Et au temps d'Élisée, pour cette première multiplication, il y avait 20 pains pour nourrir 100 personnes. Et ce matin, ici, dans notre texte, il y a 5 pains pour 25 000 personnes. Ce qui nous montre la différence entre l'ampleur du miracle qui préfigure et celle du miracle vers lequel pointe le premier. Cela montre également la supériorité de Jésus par rapport aux prophètes Élie et Élisée. On voit également qu'Élisée ne demande pas dans le texte des rois qu'on lui amène les pains comme si c'était lui qui allait les multiplier. Ce que fait Jésus ici. Élisée dit juste, distribuez-leur car l'Éternel a dit, on mangera. Et il y aura des restes. Et il y a eu des restes au temps d'Élisée. Et il y a des restes ici aussi, au temps de Jésus. En fait, il reste plus de nourriture que ce qu'il y a au départ. 12 paniers pleins. Ce qui veut dire que les 12 apôtres repartent chacun avec un panier plein. C'est également très important de bien comprendre que le Seigneur ne choisit pas de produire cette nourriture à partir de rien, mais qu'il demande aux disciples ce qu'ils ont. Il demande aux disciples de lui faire confiance et de lui donner leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Les disciples disent effectivement, nous avons 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, rien de bien impressionnant. Mais bon, c'est ce qu'ils ont. Et le Seigneur dit, apportez-les-moi. Pour nous, cela veut dire qu'il veut qu'on lui apporte le peu que l'on a, nos talents, tous les dons que le Seigneur nous a donnés, mais également ce que nous sommes, chaque facette de notre vie, afin qu'il les fasse fructifier et qu'à travers nous, il pourvoie aux besoins de son peuple. Mais parfois, lorsque l'on sert, on a peut-être peur qu'à force de pourvoir aux besoins des autres, eh bien nous n'aurons plus ni le temps, ni les ressources pour pourvoir à notre propre besoin. C'est parfois plus facile de faire confiance au Seigneur afin qu'il pourvoie aux besoins de l'autre à travers nous que de lui faire confiance qu'il va aussi pourvoir à notre propre besoin. Mais le Seigneur pourvoit aussi pour celui qui sert. On voit ici dans notre texte que les disciples repartent effectivement avec 12 paniers pleins. Ils ont au départ 5 pains et 2 poissons, à la fin un panier plein chacun. Et je pense qu'ici il y a une leçon spirituelle pour nous. Lorsque nous regardons notre vie, c'est un peu comme si nous avions 5 pains et 2 poissons. J'ai un bon métier, une vie sociale bien remplie. J'ai une femme ou un mari fantastique et de super enfants. Et toutes ces choses sont vraiment bonnes. Mais il y a aussi certains domaines de ma vie que je sais n'honorent pas mon Créateur. Peut-être une relation toxique que je ne devrais pas entretenir. Peut-être une habitude que je devrais abandonner. Peut-être que je désire tellement gagner autant d'argent que possible que cela détériore ma relation avec Dieu, avec les autres et les autres aspects de ma vie. Peut-être que je passe beaucoup trop de temps à jouer aux jeux vidéo pour m'anesthésier et échapper aux dures réalités de cette vie. Et on se dit, après tout, c'est ma vie et j'en fais ce que je veux. Personne n'a le droit de me dire ce que je peux ou ne peux pas faire de ma vie. C'est la mienne, elle m'appartient. Et ces choses qui ne plaisent pas à mon Créateur, eh bien, ce sont les choses qui m'apportent de la joie et qui m'aident à avancer dans la vie. Seigneur, j'ai 5 pains et 2 poissons. Je te donne, mettons, 3 pains et 1 poisson. Et le reste, je le garde pour moi et je ne veux pas que tu y touches. Le problème, c'est que Jésus dit « apportez-les-moi », c'est-à-dire « apportez-les-moi à tous ». Dieu est notre Créateur. Il nous a conçus. Et notre vie ne nous appartient pas à nous, elle appartient à lui. Et ainsi, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. De la même façon qu'un homme qui a conçu une voiture sait quel carburant doit l'alimenter pour qu'elle avance, le Seigneur nous a conçus et il sait ce qui va nous faire avancer, nous. Une voiture est faite pour fonctionner à l'essence et si vous essayez de la faire marcher avec de l'eau ou avec quoi que ce soit d'autre, eh bien vous n'irez probablement pas bien loin. De la même manière, Dieu a conçu l'âme humaine pour fonctionner avec lui-même. C'est lui qui est notre carburant, le carburant que notre esprit est destiné à brûler, la nourriture dont il est destiné à se nourrir. Et il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça qu'il nous a fait. Ou plutôt, si, il y a des alternatives, mais des alternatives non durables, qui à terme risquent de nous détruire si elles prennent la place de notre vraie nourriture. Si vous essayez de faire marcher votre voiture à l'eau, je ne pense pas que votre moteur sera très content. Ces choses que l'on prend souvent comme alternatives, ce sont des choses que le Seigneur nous a données afin qu'on vienne les lui apporter, nos 5 pains et nos 2 poissons. Les choses de ce monde, ces choses qui sont toujours bonnes, car c'est le Seigneur qui nous les a données, mais qui parfois vont se corrompre à cause de notre péché. Ces choses qui nous apportent tellement de joie et que parfois on ne veut pas lâcher. Ces choses que l'on appelle communément, dans le jargon chrétien, nos idoles. Alors que si nous avions la foi, si nous arrivions à lui faire confiance et à lâcher ces choses, non seulement le Seigneur nous utiliserait pour bénir les autres, mais nos 5 pains et nos 2 poissons se changeraient en 12 paniers pleins. Et nous connaîtrions la vraie joie. Nous connaîtrions l'alignement avec notre Créateur. Et nous pourrions avancer, fortifiés par le vrai carburant qui fait brûler notre cœur. Comme le disait Augustin d'Hippone il y a 15 siècles, il disait ça dans le premier paragraphe du premier chapitre de son premier livre de ses confessions. Il disait « Seigneur, vous nous avez fait pour vous et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en vous. » C'est pourquoi demander à Dieu de nous rendre heureux à notre manière, à partir des choses qu'il nous a données, les choses créées sans lui, eh bien cela est vain. Le bonheur et la paix ne peuvent pas exister en dehors de Dieu parce qu'ils ne se trouvent tout simplement pas ailleurs. Il nous a créés pour lui et la vraie satisfaction n'existe nulle part ailleurs qu'en lui. Aller vers Jésus-Christ avec nos 5 pains et nos 2 poissons, c'est un peu comme dans l'image de C.S. Lewis où il dit « Imaginez que vous soyez une maison et chaque pièce représente un domaine de votre vie. Vous allez vers Jésus pour faire un travail de rénovation parce que vous savez que certaines choses doivent être changées. Alors, vous lui dites, Seigneur Jésus, voici, j'ai une maison de 4 pièces et je voudrais que tu modifies la cuisine et cette chambre de façon à ce que ma maison soit un peu plus conforme à ta volonté. Par contre, Seigneur, s'il te plaît, ne touche pas à la salle de bain, ni aux toilettes. Alors, je sais que ces pièces ne sont pas parfaites, mais je les aime bien comme ça. En gros, encore une fois, tiens, Seigneur, voilà 3 pains et 1 poisson. Fais-en ce que tu voudras. Le problème, c'est que lorsque nous venons à Jésus-Christ, il a d'autres plans. Nous avons notre plan, nous avons nos plans, et lui, il a le sien. Il ne veut pas simplement modifier la salle de bain et une chambre, mais il va travailler, travailler et travailler en nous jusqu'à ce que notre petite maison de 4 pièces que nous voulions rénover se change en un palais royal. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il fait bien plus que tout ce que nous pourrions imaginer. Et parfois, eh bien, ça va faire mal. Parfois, ça va faire très mal. Parfois, on ne va pas comprendre là où il va en venir. Parfois, il va casser certains murs et ça va faire mal et on va lui dire « Mais pourquoi ?» Mais il faut lui faire confiance, lui remettre notre maison entière, notre vie entière et le laisser travailler lui, comme il l'entend. Il faut venir à lui et ne pas hésiter à lui confier nos 5 pains et nos 2 poissons afin qu'il en fasse ce qu'il voudra. Et il pourvoira et nous finirons comme les disciples, chacun avec un panier bien plein. Voici ce que disait C.S. Lewis à ce propos. Il disait « Se donner entièrement à Christ signifie abandonner toute tentative de contrôler notre propre vie. Il demande tout, parce que ce n'est que lorsque nous donnons tout qu'il peut nous donner ce que nous avons toujours désiré, la vraie joie, la paix, le réconfort et un vrai sens à notre vie. » Et le paradoxe est saisissant. En perdant notre vie pour lui, nous trouvons la vraie vie en lui. Christ ne nous a jamais appelés à un abandon partiel, mais à un abandon total. Car ce n'est qu'ainsi qu'il peut véritablement transformer notre cœur et nous conduire au repos que nous cherchons si profondément. Ici, dans notre texte, le Seigneur dit « Apportez-les-moi ». Alors apportons-les-lui et donnons-lui tout ce que nous sommes. Qui nous conduit à notre dernier point. Le Seigneur pourvoit aussi au pain du ciel. Nous avons dit dans l'introduction que ce miracle est une sorte de point culminant dans les évangiles, qu'il est d'une importance notable. Et le texte qui raconte ce miracle fonctionne en fait comme un chiasme. Un chiasme, c'est une figure de style très utilisée dans la Bible où des éléments sont placés en miroir selon une structure croisée. Ici, dans notre texte, eh bien, au verset 13, le Seigneur veut se retirer dans un endroit désert. À la fin du texte, au verset 23, en parallèle, il se retrouve seul à l'écart pour prier. Au début du texte, Jésus a un besoin. À la fin du texte, le Père y pourvoit. Ensuite, quand on se rapproche du centre, au verset 17, les disciples n'ont que 5 pains et 2 poissons, et au verset 20, ils repartent avec 12 paniers pleins, comme on l'a dit. Les disciples ont un besoin, Jésus y pourvoit. Et au centre de notre texte, au verset 19, la foule a faim, et au verset 20, la foule est rassasiée. Et un chiasme est fait pour mettre l'accent, pour donner toute l'importance sur ce qui se passe au centre. Et ici, au centre du centre, Jésus fait quelque chose de particulier. Jésus fait quelque chose qu'il refera à la toute fin de sa vie terrestre. Jésus prononça la prière de bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Ici, Matthieu, qui écrit ce texte, utilise les mêmes termes pour décrire ce que Jésus est en train de faire que ce qu'il utilisera pour décrire ce que Jésus fera lors de la scène, lors de ce dernier repas avec ses disciples. Ce jour de la Pâque où lui-même s'apprêtera à devenir notre agneau pascal. Et tous les théologiens sont d'accord pour affirmer que ce n'est pas une coïncidence et que le Seigneur est en train de préfigurer qu'il est le vrai pain du ciel. qu'il est supérieur ainsi à Moïse, à qui Dieu avait confié la manne dans le désert, que lui, Jésus, est le vrai pain du ciel qui est destiné à rassasier notre vrai besoin spirituel. La foule avait besoin d'un pain physique, mais pas seulement. Le pain physique est ce qui donne la vie terrestre. Et de la même façon que notre corps a besoin d'une nourriture, notre esprit a également besoin de nourriture. Et Jésus est notre pain céleste, celui qui nous permet de fonctionner, comme nous l'avons vu ce matin. Il est celui qui nous donne la vie éternelle. Jésus, nous l'avons dit, en voyant cette foule, fut ému de compassion. Et lorsqu'il nous voit, nous aussi, il est ému de compassion. Il a ce sentiment dans les tripes qui le pousse à nous sauver. Non pas par calcul, non pas parce qu'il doit le faire, mais par compassion, par amour pour nous. Et vous savez, une des caractéristiques du pain, c'est qu'il doit être rompu, il doit être brisé, afin qu'il puisse être mangé. Et c'est ce que fait Jésus, ici dans notre texte. Et c'est ce qu'il fera lors de la scène avec ses disciples au moment de la Pâque. Et lui aussi, il devra être rompu, il devra être brisé à la croix, afin que nous puissions avoir notre nourriture spirituelle. Ce miracle où Jésus va nourrir toute cette foule est effectivement d'une importance capitale, car c'est un signe à travers lequel il nous révèle sa véritable mission, la croix. À la croix, Jésus a eu compassion de nous. Il n'a pas attendu que nous soyons dignes de lui. Il n'a pas attendu que nous méritions d'être sauvés. Vous vous souvenez du petit chat, dans la rue, tout seul, frêle. Il ne mérite pas non plus d'être sauvé. Mais vous n'êtes pas en train de calculer, vous y allez, et vous êtes peut-être même prêt à prendre des risques pour le sauver. À la croix, Jésus a choisi de mourir, d'être brisé, par amour pour sauver des pécheurs qui ne peuvent absolument rien faire pour se sauver eux-mêmes. Nous, à la croix, le Seigneur a pourvu au vrai pain du ciel qui nous donne la vie éternelle. Alors quelle va être notre réponse à un tel amour? Est-ce que nous allons choisir de lui dire oui et de lui faire confiance? Est-ce qu'on va lui dire « prends mon cœur tout entier » Allons-nous lui donner nos 5 pains et nos 2 poissons sans rien en retenir? Allons-nous le laisser nous utiliser pour sa gloire afin qu'il se fasse connaître aux gens autour de nous? Je prie que le Seigneur nous donne de nous rappeler chaque jour de quel amour il nous aime, afin que nous puissions faire les bons choix, afin que nous puissions lui faire confiance pour les choses qu'il nous donne et celles qu'il ne nous donne pas. Prions. Notre Père, notre Dieu, je veux effectivement te remercier pour ton amour pour nous. Tu es allé à la croix, tu as été brisé pour nous. Seigneur, tu n'as pas regardé à ton intérêt, mais tu nous as regardé nous et tu as été ému de compassion. Seigneur, tu as pris notre place à la croix, nous qui étions pécheurs, tu as pris sur toi le péché afin de nous offrir ta place auprès du Père. Seigneur, tu es ensuite ressuscité des morts. C'est ta victoire sur la mort. Et maintenant, nous, nous sommes victorieux aussi en toi. Seigneur, dans cette vie, tu nous donnes des missions impossibles par nous-mêmes. Et on t'en remercie, Seigneur, parce que lorsque l'on regarde à cette mission, on peut toujours s'appuyer sur toi, parce qu'on sait que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je te prie également qu'on puisse te remettre toute notre vie, qu'on puisse te faire confiance pour toutes choses. Seigneur, tu es celui qui nous a créés. Et non seulement tu es celui qui nous a créés, tu es celui qui nous aime. Tu sais ce qu'il y a de bon pour nous et tu nous le donnes chaque jour. Seigneur, on te remercie pour ta provision. On te remercie pour nous donner les choses que tu veux nous donner. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance en toutes circonstances. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.